19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. On est vendredi, tranquillement. Nous sommes ensemble pour vous accompagner durant le week-end. Accompagner pour un bon week-end. Nous sommes ensemble durant une heure. Une heure avec jusqu'à 20 heures pour analyser, commenter, décrypter l'actualité. Vous le savez, c'est ici que ça se passait nulle part ailleurs. En direct, d'ailleurs, en live, y compris vous aussi, partout en France. Vous pouvez intervenir au 01 53 48 3000. Alors, qu'est-ce que je vous propose au menu aujourd'hui durant une heure? Eh bien, c'est des débatteurs influenceurs qui viennent commenter leur point de vue avec Ségolène Royal qui lâche cette phrase. Mais dis donc, Ségolène, le pouvoir te manque, je le sens, ma petite Ségo. On va parler de toi. Non mais je me lâche, j'avais envie de me lâcher. C'est vendredi, j'avais envie de me lâcher. Mais non, Ségo, je rigole. Ségolène Royal, elle dit à Anne Hidalgo, mais désistez-vous, laissez la place aux autres. Laissez en fait la place à moi. C'est moi qui incarnerai mieux la France. Alors, on va en parler. Ensuite, direction un autre sujet, la laïcité. Ah, elle a pris un coup, parce que paraît-il, eh bien, il y a des atteintes à la laïcité en hausse à l'école. Dites donc, les jeunes seraient de moins en moins attachés à ce principe? Bon, eh bien, nous allons nous intéresser, évidemment, à ce phénomène. Autre sujet aussi, notamment, vous savez, c'est celui de la rivalité avec le PS. Le PS dans le paysage politique. Mesdames et messieurs, franchement, le Parti Socialiste existe-t-il encore en France? Est-ce qu'il a encore du poids? Eh bien, on en parlera. Voilà le menu que je vous propose. C'est parti, c'est tout de suite. Et vous le savez, plus que jamais, les informer, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informer avec Adil Farkan.
Le standard est ouvert aussi. Jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Ah oui, parce que vous avez vous aussi la priorité. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de, évidemment, Ségolène Royal et tout ça, le face-à-face?
Les informés, le face-à-face.
Plaisir de retrouver nos débatteurs influenceurs. Quel plaisir en ce vendredi soir. Jean-Claude Félix Chicaïa, chercheur.
Bonsoir Adil, bonsoir
au
tout le monde.
Au sein de l'IPSE, vous étiez overbooké, dites donc. Hein,
oui, c'est vrai.
De conférence en conférence.
De
non
conférence à conférence.
Ah, ça charbonne, hein.
Hier encore.
Oui, je vois ça. Je vois ça.
L'Europe et la France.
Bon,
la
welcome. Akli Melouli, maire adjoint sur Bonneuil-sur-Marne. Comment ça va, mon cher Akli?
Moi, ça va très bien.
Vous aussi, là, vous voyagez, vous rentrez d'Alger, vous partez, vous revenez, vous faites le. Vous préparez les présidentielles, qu'est-ce qui se passe?
Je prépare les présidentielles, les voyages forment la jeunesse, donc j'essaie de rester jeune.
J'ai failli lancer une petite boutade.
Allez-y, Adil.
J'ai dit, vous préparez le PS pour qu'il passe le cap des 3%? Non, je rigole, on peut sonner, oui, je rigole.
Sonner, elle est excellente. Non, mais effectivement, c'est vrai que, après, on va en parler dans notre troisième sujet, mais c'est quand même, s'il y avait que le PS qui allait mal, je crois que l'ensemble de la gauche est dans les...
Surtout le PS, mon ami.
Le problème, c'est qu'on peut dire surtout, mais le PC, il est à 1%, n'importe qui essaie de sortir à 2%, les Verts, ils sont à 7%.
Le PC, ça fait très longtemps qu'il n'existe plus. Hein.
Quand vous prenez le total, alors le problème, c'est qu'on peut effectivement essayer de regarder l'autre, parce que là...
Alors, on ne va pas débattre, parce qu'évidemment, on finit un jeune
bon, voilà, j'aurais pas gagné ma médaille de soutien international.
Mais si, vous allez la gagner, votre médaille, vous allez voir. Un jeune journaliste, Mehdi Jaziri, bonjour.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va vous?
Super, merci. Allez.
Ouais, nickel. C'était tout pour moi.
C'est ça, exactement.
Ça va, c'est tout pour moi, c'est les jeunes influenceurs, ça maintenant. C'est tout pour moi. C'est pas des stand-up, hein. Fais gaffe, Mehdi.
Ah non, du tout, très sérieux. Ouais, très sérieux, tout ça. Bon, bah, vous voyez comment on traite la jeunesse? Incroyable. Bienvenue sur Beurre FM.
Akli Melouli, je suis désolé, tu m'as fait rire. Mais t'es fou, en fait.
Non, mais moi, ça commence, hein.
Non, oui. Jamais. J'essaie de donner un peu à la jeunesse.
J'ai du mal à être sérieux, là. On est vendredi soir, ça va partir en cacahuète, je vous le dis ce soir. Présidentielle 2022, Ségolène Royal qui demande à Anne Hidalgo, la maire candidate des présidentielles, de se désister pour Jadot ou Mélenchon. Tiens, je vous donne la parole. Qu'est-ce qui lui prend, Ségolène Royal? Vous la connaissez, en plus?
Alors,
elle se souvient pas que ça s'est pris un râteau il y a quelques années? Pardonnez-moi la trivialité.
Oui,
je me lâche ce soir.
Non, mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Ah, je crois qu'il y a peut-être un obligation.
Non, allez-y.
Donc, on n'a pas besoin d'ennemis. Et à mon avis, sa sortie, elle est franchement dans la période, elle est vraiment inutile, quoi. Elle apporte rien au débat, parce que d'abord, elle ne va pas y aller. Si effectivement, elle se désistait, le seul qui a aujourd'hui, et le paradoxe, hein, c'est ça, c'est celui qui a aujourd'hui, avec son livre, affronté, qui a un programme, c'est Hollande. Mmh. Le seul qui propose, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui. Moi, je parle de choses. Donc, aujourd'hui, le problème qu'on a, et moi, je le dis aisément, Adil, et on va en parler tout de suite,
c'est que, aisément,
c'est que
je
moi,
pense.
J'étais contre cette façon de désignation. C'est le TO, ce qu'on appelle le TOB dans les courants. Moi, j'étais au TOA, j'ai pas soutenu l'équipe d'Olivier Faure parce que je pense que ne pas faire de primaire nous a fait du tort énormément, nous a créé du dégât. Et un parti à gauche, quand on n'a pas le débat et quand on impose des candidats ou quand on plébiscite des candidats,
oui.
C'est pas le but de la gauche. La gauche, c'est un programme, c'est une proposition, alors, c'est une rencontre et
savez,
il faut des votes.
Savez,
et donc, la méthode qui a été mise en place nous conduit effectivement à devenir presque ridicule.
Atli, on va mettre les pieds dans le plat. 19h06, c'est le quoi de neuf, parce qu'il y a le quoi de neuf de 19h et celui de 19h30. On va rattraper le temps perdu simplement de celui de Pascal Boniface, le quoi de neuf.
Les informés, le quoi de neuf.
Avec Pascal Boniface, bonsoir mon cher Pascal, le patron. Il est là, rappelez-le, on va le retrouver, c'est moi qui ai tardé à le mettre à l'antenne. Oui. Ah oui, c'est vrai, pour une conférence ?
Non,
pour la ville. Pour la ville. Alors, ah oui, c'est vrai, pour la télé, effectivement. Alors, Pascal Boniface, justement, avec son quoi de neuf aujourd'hui, nous allons le récupérer. Il est là. Bonsoir, mon cher Pascal Boniface.
Salut, Adil.
Comment ça va ?
Très bien.
Vous êtes
un vendredi.
Président fondateur. J'allais dire. J'oublie l'Iris, absolument. Ouais. Pascal Boniface, on vous écoute pour votre billet d'humeur de ce vendredi, en rappelant au passage quand même, parce que j'aimerais dire à nos éditeurs qu'ils aillent absolument se procurer votre ouvrage sur la géopolitique, tout simplement parce qu'il est important, on est en plein dedans, cet ouvrage il est d'actualité.
Oui, je l'ai lu, il est très
bien. Vous l'avez lu? Vous l'avez acheté, vous l'avez lu? Vous entendez Pascal Boniface?
Je peux remercier Pascal Boniface de l'avoir envoyé. Bon, ouais. J'espère que quand je le verrai, je le ferai dédicacer. Mais je le remercie de me l'avoir envoyé. Un très bon ouvrage que je recommande vraiment. Et au moins, ceux qui veulent comprendre un peu les choses,
il contribue. Hein. Jean-Claude?
Merci. Oui, je l'ai lu, comme je fais aussi la géopolitique. Je l'ai lu, j'ai lu la version révisée qui vient de sortir d'ailleurs. Et je trouve très pertinent.
Eh bien, bravo, mon cher Pascal.
Je le lirai, moi, personnellement.
Voilà,
vous le direz. La géopolitique, tout simplement, allez vite vous le procurer. Très important, c'est un ouvrage
excellent
qui est d'actualité. On vous écoute, mon cher Pascal.
Oui, je voulais vous parler aujourd'hui du boycott. Alors, on parle beaucoup du boycott des Jeux de Pékin. Est-ce que c'est un boycott diplomatique ? Est-ce que c'est un boycott sportif ? On n'y comprend plus grand-chose. Il faut distinguer l'un et l'autre. Alors, les États-Unis et puis leurs alliés les plus proches, hein, la Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, ceux qui veulent contenir la Chine, ont décider d'un boycott diplomatique des Jeux de Pékin. Ça veut dire qu'ils vont pas envoyer de personnel politique, pas de président. Alors, mais les sportifs viendront parce qu'il n'y a pas de boycott sportif. Mmh. Alors, on voit qu'il y a quand même beaucoup de mise en scène parce que Biden n'était pas venu à Tokyo pour l'ouverture des Jeux Olympiques et on n'avait pas dit qu'il y avait du boycott. Mais là, ils veulent quand même marquer le coup en disant on n'aime pas la Chine, on n'aime pas leur politique, on veut condamner les violations des droits de l'homme et donc, pour le coup, on n'envoie pas le président et nos chefs d'État et de gouvernement à Pékin. C'est à la fois vrai, parce qu'il y a effectivement de véritables violations des droits de l'homme de la part de Pékin, et c'est à la fois autre chose, parce que ce qui gêne les États-Unis, c'est plutôt le fait que la Chine est en train de les rattraper, et qu'il y a une rivalité mondiale pour la suprématie sur la planète entre Pékin et Washington, parce que la situation des droits de l'homme en Chine n'était pas meilleure il y a 3 ans. Et à cette époque-là, eh bien, les Américains n'en parlaient pas beaucoup des droits de l'homme en Chine, parce que ils pensaient plutôt faire du commerce avec la Chine. Et puis, on voit aussi que certains demandent des boycotts sportifs, de ne pas envoyer des sportifs à Pékin. Et là, je crois que c'est l'hypocrisie la plus totale. Parce qu'en fait, les gens qui proposent des boycotts sportifs sont des gens qui n'aiment pas le sport, en fait. Et ils pensent que le sport, c'est facile d'annuler. Ils ne proposent pas qu'il y ait un boycott commercial. Là, ça serait plus important. Pourquoi le sport serait uniquement la variable d'ajustement des relations entre deux pays et pourquoi il faudrait boycotter les événements sportifs et pas boycotter les échanges économiques. Il y a 2 milliards par jour qui s'échangent entre Pékin et Washington. Si un boycott, ça serait celui-là, si vraiment le régime chinois est insupportable. Donc on voit qu'il y a à la fois des problèmes réels de la violation des droits de l'homme par la Chine et en même temps beaucoup d'instrumentalisation, beaucoup d'hypocrisie et en fait, tout ceci s'inscrit dans le cadre général d'une rivalité pour la suprématie mondiale entre Pékin et Washington.
Effectivement, vous avez bien raison de nous le rappeler, c'était très important et bravo pour ce billet d'humeur qui avait toute son importance, qui est en pleine actualité. Mon cher Pascal Boniface, on ne vous retrouve pas vendredi, mais jeudi prochain à 19h30, sans
avec
faute.
Avec grand plaisir.
Je vous souhaite un excellent week-end, mon cher Pascal.
Bon week-end à tous. Les
c'était le Quoi de Neuf. Merci.
Les informés, le face-à-face.
Et on va écouter Jean-Claude Félix Tchicaillet et ensuite Mehdi Jaziri concernant donc l'ex-candidat de PS à la présidentielle de 2017, rappelons-le, Ségolène Royal. Alors, ce succès, évidemment, concernant... le succès, vous avez eu le lapsus. Je voulais parler des LR, mais non, mais je parle d'un... franchement, cette phrase lâchée, se désister, elle aurait dû lâcher cette phrase, mon cher Jean-Claude Félix Tchicaillet.
Je crois que cette phrase, elle va chercher plus loin que Ségolène Royal elle-même, parce que même le succès de Valérie Pécresse, c'est aussi le succès de la droite en prenant un verbatim, le verbatim, presque le verbatim entier de l'extrême droite. C'est un peu le retour de l'ancienne droite et le retour acharné de l'ancienne gauche. Je pense que Macron aurait dû faire sa politique de nouveau monde, parce que réellement, le monde en a besoin. Là, bon, elle essaye de dire à Hidalgo de se désister, mais se désister pourquoi et pour qui ?
Mais pour elle ou pas ?
On voit bien que Hidalgo a essayé. Hidalgo a essayé hier de faire une union sans y croire, mais elle a reçu, elle a essuyé un refus en direct et catégorique. Je pense que ça va être une guerre d'égo. Chacun va faire en dessous de 10. En dessous de 10. Alors que il faut absolument, je pense, une union s'ils veulent avoir un projet, en tout cas une vision programmatique. Parce que la gauche comme la droite et comme toute la classe politique, pourquoi Macron est passé ? Il est passé aussi parce qu'il a déçu. Parce que la classe politique a déçu. Les socialistes étaient là il y a 4 ans et demi. Faut s'en rappeler. Donc là, tout le monde s'acharne sur Macron pour des choses véritables ou non ou autres. Mais il a quand même un bilan. Il faut laisser les électeurs faire ce qu'ils ont envie de faire. Et là, c'est bien le retour de l'ancienne droite dans un nouveau monde qui est là, de toute
Absolument.
Façon.
Mais je voudrais quand même revenir sur cette déclaration, le désistement, le Royal. Est-ce qu'elle enterre en quelque sorte Hidalgo ? Et puis, elle dit quand même, elle rappelle qu'elle est là au cas où. Je reviendrai vers vous. Je voudrais entendre Mehdi Jaziri. Et ensuite, après, Mehdi Akli Mellouli.
Mais moi, Adil, je vais être sincère avec vous. Je pense qu'il y a un vrai problème là. On est en train de dire qu'Hidalgo a raté son coup. Je pense pas que c'est Hidalgo qui a raté son coup. Je pense que c'est la gauche qui l'a raté.
En panique. Oui.
Voilà. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas du tout contre les idées qui rassemblent. Voilà, en fait, là, ce qui se passe...
Expliquez-nous, parce que là...
En fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, cette campagne se résume en un mot, divisé.
Ouais.
Tout simplement.
Ouais.
On a Mélenchon qui ne parle pas aux gens de gauche, mais à ses partisans. On a des gens des LR, Ciotti et Pécresse dans le même parti, excusez-moi, mais je trouve ça quand même assez bizarre. Ils ont des idées totalement différentes. En fait, ce qui est différent entre la droite et la gauche, c'est que tous ces gens à la droite qui ont des idées totalement différentes...
Mais restons sur Ségolène Royal et...
Oui, mais Ségolène Royal, sincèrement, elle ne vaut même pas le coup.
Ouais.
Sincèrement, elle est grotesque, elle est ridicule, elle ferait mieux de rester chez elle, voilà, à pleurer, à se remémorer ses bons souvenirs. Elle est grotesque, qu'elle reste en dehors de tout ça. Voilà.
C'est ce que vous les dites.
Voilà, mais sincèrement, elle est grotesque.
Alors,
qu'elle se taise. Voilà, tout simplement. Parce qu'au bout d'un moment, on fait face à un vrai problème. Elle, ce qu'elle fait en disant ça, elle divise encore. Elle divise encore, elle crée encore des divisions dans la gauche, comme si elle n'avait pas déjà
c'est
assez.
C'est pas faux, Akli Mellouli, vous qui faites partie justement, vous êtes un des poids lourds du Parti Socialiste.
Là où il a raison. Alors, sur Jean-Claude, sur le bilan de Macron, il faut être réservé.
Il se rend quand même.
Oui, mais il faut être réservé parce que le bilan de Macron, c'est le bilan d'Hollande sur le chômage. Parce que vous savez qu'il faut un certain temps pour que les choses se mettent en place. Donc c'est les mesures prises.
Je l'ignore pas.
Oui, je sais.
L'État, il y a la continuité de l'État. Je pense que la population française lui tombe dessus.
Oui, oui.
En rappelant, en publicitant.
Voilà.
Un ancien monde auquel ils ont tourné le dos il y a 4 ans et demi.
Voilà, alors,
les citoyens ont quand même une responsabilité aussi. Hein.
Non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que je disais juste pour que les gens comprennent que les bilans, comment ça se passe. Parce
Bien
que souvent,
sûr.
Les gens pensent qu'en un mandat, tu peux faire. Les mesures que lui, il a prises, on va en voir les effets dans quelques années.
Bien sûr.
Et donc, ça, c'est important de le préciser. Mais sur Anne Hidalgo.
Restons sur Ségolène et Anne Hidalgo.
Anne Hidalgo. Moi, j'étais partisan d'une primaire, ce qu'ils n'ont pas voulu, parce que cette primaire aurait pu permettre effectivement de parler de programme, de débat de programme contre programme, exactement. Ce qui nous a manqué. C'est pas que la gauche est en panne d'idées, c'est que les idées de gauche n'ont pas été débattues, et donc elle porte un programme dont on ne connaît pas encore les contours. Je vous le rappelle quand même. Hein. Et aujourd'hui, on voudrait faire l'union de la gauche sans programme. Il faut d'abord un programme. Et là, Hollande dit la raison. Et le seul qui a écrit un programme, on le veut ou on le veut pas, moi, je suis en train de le défendre. Je l'ai reçu, donc je dis ce qu'il dit. C'est avec affronter, c'est François Hollande. On peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, tu vois, je redis encore les choses. Moi, je ne suis pas en train de les convaincre. Mais par contre, effectivement, là où je rejoins Mehdi, c'est que Ségolène Royal a raté une occasion de se taire. Ouais. Parce qu'on ne tire pas une balle contre son camp.
Ah, la jeunesse,
c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la jeunesse, parfois, c'est pas une question de jeunesse, c'est une question de lucidité, de conscience, etc. Il faut qu'on arrête de diviser, que ce soit les jeunes, les anciens. Et il a raison. Aujourd'hui, cette campagne est partie sur des divisions. On ne connaît même pas bien les contours de tous les programmes, d'ailleurs, je vous rappelle, de la gauche, à part parler à ses partisans. Donc aujourd'hui, ils sont en train, plutôt que de parler au peuple de gauche, ils sont en train de parler à leurs électeurs, à leurs petits clans, en essayant de rassembler, de faire un point de plus que l'autre. On n'est pas là-dedans. Parce que quand vous voyez la somme des voix de gauche, et c'est vrai que le problème qui va se poser, y compris pour les Républicains, c'est après la ligne politique. Parce qu'entre la ligne politique de Chirac et celle de Ciotti d'extrême droite, comme le disait, ça va faire mal aux adducteurs un peu. Parce que tenir les deux bouts, parce que franchement, Adil, tout le monde sait que ce qui est raconté, aujourd'hui, et je finis là-dessus, on n'a pas encore abordé, et là-dessus on peut lui reprocher à Hidalgo d'avoir été clair sur ses positions par rapport à l'immigration.
Voilà, c'est dit.
On n'a pas encore abordé les questions de fond de société. Le pouvoir d'achat des Français, comment on fait sur le travail, parce que d'un côté, les Républicains, quand ils annoncent plus d'immigration, mais le MEDEF, leur premier soutien...
Oh mais vous êtes passé où les amis? Vous êtes passé où? On ne vous entend pas du tout. Vous êtes effacé.
Parce qu'on n'est pas dans le débat.
C'est ça le problème. Vous n'êtes pas du tout dans le débat, bien sûr.
On a raté cette étape forte à la gauche qui est la primaire. Et s'il devait y avoir primaire populaire, je finis, elle aurait dû se faire il y a 6 mois et non pas maintenant. C'est trop tard.
C'est trop tard. Alors justement, on va revenir, on va en parler. Je vais entendre Mehdi, je vais entendre Jean-Claude, Félix, Ikaya, Mehdi Jaziri sur ce que vient de dire Clément Loli. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous. C'est la première pub, donc la première tranche pub dans Les Informés. Et on se retrouve dans une poignée de minutes à peine. À tout de suite.
Les Informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les Informés avec Adil Farkan.
Les Informés, il est 19h23, si vous venez de nous rejoindre, si vous voulez réagir, 01-53-48-3000 avec Aklim Elouli, avec Jean-Claude Félix-Sikaya et enfin avec Mehdi Jaziri.
01-53-48-3000. Les Informés vous donnent la parole.
Alors, dans l'ordre, il y avait Mehdi qui avait réclamé la parole, et Jean-Claude Félix-Sikaya concernant les propos par Aklim Elouli, et notamment Ségolène Royal qui appelle Anne Hidalgo de tous ses voeux à se désister et qui prendra ses responsabilités en cas de primaire. Alors
Merci de me donner la parole. Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit, excusez-moi, le votre prénom, s'il vous plaît, je suis arrivé
Aklim,
en retard. Aklim, vous l'avez dit tout à l'heure en plus. Concernant les idées, moi je trouve qu'elles sont surtout très mal exprimées. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon a sorti son programme le même week-end que celui où je suis parti réunir les doléances des Français. Si je rappelle, j'ai fait un cahier de doléances. C'est le 16 octobre qu'il a sorti son cahier de doléances, son programme, excusez-moi. Je trouve qu'il a très mal exprimé ses idées. En fait, il y a un réel problème de communication surtout. On tombe clairement dans de la télé-réalité. C'est-à-dire que, non mais sincèrement, Monsieur Mélenchon pourrait très bien faire les anges de la télé-réalité l'année prochaine. Il aura peut-être plus de chances de gagner d'ailleurs. Non mais sincèrement, excusez-moi, il a fait un meeting dimanche dernier
à la Défense, c'est ça?
Ouais, à la Défense. Il a passé son temps à critiquer Pécresse, parce qu'il monte dans les sondages, bien évidemment, à critiquer Éric Zemmour et le grand chef Macron. Il a fait que ça. On ne retient que ça de lui.
Mais
on ne retient que ça de lui. Il ne fait que ça sur les plateaux. Il demande des débats, mais ce n'est pas des débats. C'est des exécutions qu'il veut faire. C'est simple. En fait, il pense qu'il va gagner
Qu'est-ce que pense la jeunesse aujourd'hui? Vous êtes écouré? Vous êtes quoi?
La jeunesse, moi, je vais pas m'inclure dedans parce que j'ai un point de vue de, excusez-moi, messieurs, mais de vieux. Mais, mais sincèrement, non. La jeunesse, à chaque fois que je leur parle de politique, par exemple, pendant le week-end où je suis parti voir les jeunes, ils m'ont soufflé à la gueule. Sincèrement, ils m'ont soufflé à la gueule. Ils m'ont dit qu'ils n'y croient plus.
Ils n'y croient plus?
Ils n'y croient plus.
Même, vous dites
même eux, ils n'y croient plus.
Ils veulent pas aller voter. Les présidentielles, ils veulent pas aller voter?
Mais il y en a qui ne voient même pas l'intérêt de le faire. C'est même pas qu'ils veulent pas le faire. Ils voient même pas l'intérêt. S'ils voyaient l'intérêt, ils le feraient. Mais ils ne voient même pas l'intérêt.
C'est quoi l'intérêt?
Mais que les choses changent. Que des promesses soient tenues, que des idées déjà pour commencer, que des idées soient proposées. On n'a pas d'idées, sincèrement. Allez voir quelqu'un dans la rue, demandez-lui le programme de Monsieur Mélenchon. Et personne va savoir. Même pas une idée, rien du tout.
Mélenchon ou d'autres, d'ailleurs.
Ou d'autres, d'ailleurs. Ouais. Mais je parle de Mélenchon parce qu'il a sorti son programme le 16 octobre. Mais c'est le gros problème de la gauche aujourd'hui. Et pas que. Mais le gros problème, surtout de la gauche. Voilà.
Jean-Claude Félicicaïa, alors concernant Ségolène Royal, qui demande à se désister à Anne Hidalgo, évidemment au profit de Jadot, au profit de Mélenchon, ce que vient de dire Akhil Mellouli, ce que vient de dire Mehdi Jaziri, avant de passer au second sujet qui a retenu notre attention sur le PS, existe-t-il encore finalement ? Ou alors on peut en parler.
ça fera jonction. Non, parce que sur Ségolène Royal, il ne s'agit pas d'être dur parce que c'est Ségolène Royal, elle ne pas. C'est pas un tyran, c'est pas une. Elle a jamais conduit un régime autoritaire. C'est une petite musique aussi qu'on entend. C'est-à-dire que la campagne d'Hidalgo ne démarrant pas, donc on lui dit, ça ne démarre pas, désiste-toi, et peut-être que si tu te coagules et si tu fais alliance avec Jadot derrière lui et Mélenchon, c'est pas sûr d'ailleurs.
Une histoire d'ego quand même.
C'est pas sûr que Mélenchon lui ouvre la porte, mais il y a une guerre d'ego. Sauf que veulent les citoyens? Ils peuvent se tourner vers Pécresse, ils peuvent se tourner vers qui ils veulent. Ils veulent surtout des idées. Quand je parlais de Nouveau Monde tout à l'heure, il s'agit pas de faire table rase du passé où tout était à jeter avant et maintenant tout est nouveau, la vertu tout au nouveau et voué aux hégémonies tout ce qui était ancien. Mais il y a une intergénération où là, il y a des enjeux qui concernent tout le monde, c'est-à-dire de l'enfant aux personnes âgées qui deviennent de plus en plus âgées. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinairement bien à souligner. Hein. Il y a 50 ans, on avait beaucoup moins de personnes âgées.
Et finalement, si c'était une histoire d'ego.
Les histoires d'ego, pourquoi elles vont pas s'amoindrir? C'est parce qu'il n'y a pas vraiment un débat d'idées. Alors qu'un débat d'idées, s'il avait vraiment lieu, comme disait Akhil Mellouli tout à l'heure, sur les primaires, on pourrait voir peut-être une ébauche de complémentarité. On voit bien que certains reprochent aux Verts parfois un certain côté monolithique et que sur les questions sociales, sur les questions d'économie, sont un peu moins bons. Donc là, peut-être que le social-libéral peut aider. Sur le côté de la justice sociale, les gens vont peut-être faire plus confiance à Mélenchon. Pourquoi ne pas travailler ensemble et croire, comme au XXe siècle, comme les anciens régimes, qu'ils savaient tout, c'est un parti unique.
Eh bien, ce que vous dites là, effectivement, me permet une belle transition. Je vous pose la question, et d'ailleurs, beaucoup se la posent aujourd'hui. La primaire, est-ce qu'elle ne révèle pas finalement la faiblesse du Parti Socialiste, que ça soit Anne Hidalgo ou une autre? On a le sentiment que parfois, ça y est, le PS est en train de disparaître, de mourir.
Mais qu'ils se réunissent.
Et puis, il n'y a plus du tout le poids du Parti Socialiste qu'on connaissait il y a quelques années. Est-ce que, Akhil Mellouli, vous qui faites partie du Parti Socialiste, le PS, aujourd'hui, est en train de mourir, voire peut-être déjà enterré? Pardon de vous poser la question aussi sèchement.
Alors, mais vous avez raison de poser la question. Si vous me parlez du Parti de l'appareil, on peut s'inquiéter quand on voit effectivement aujourd'hui cette direction incapable de proposer ou de rebondir, etc. C'est une réalité. Bah, vous savez, je suis pas là pour cacher le soleil avec un tamis, hein, sinon ça se voit.
C'est inexorable, hein, la chute du PS. Hein.
Je finis. Donc il y a deux choses.
Inexorable, les amis.
Le socialisme, il n'y a pas de chute du socialisme. Il faut savoir quand même que ça aussi, c'est important de le dire aux gens.
Mais s'il y avait effectivement le socialisme aujourd'hui,
Il faut que l'incarner, Adil. Il y a le socialisme dans la société. Il y a des gens, on le voit bien au niveau municipal, on le voit au régional. On voit qu'effectivement, il y a un socialisme de proximité qui fonctionne. Et je vais vous dire, aujourd'hui, plus que d'actualité, les valeurs de Jaurès sont mal portées. C'est ça dont on a besoin. En fait, qu'est-ce qu'ont besoin les Français réellement? Parce que c'est le principe du progrès du CSI. Ils ont besoin de progrès. Ils ont besoin de réformes. De réformes qui aillent dans le sens du peuple, de l'humain. Et donc, ils ont besoin de gens qui ont des visions. Et si c'est pas ça, c'est du socialisme. Le socialisme, c'est le partage. C'est pas la redistribution, contrairement à ce que certains ont fait. On s'est trompé sur certaines choses. Le partage, c'est comment on partage le travail, les fruits du travail, etc. C'est pas de redistribuer, c'est pas la charité
chrétienne. Mais pardon, avec les Mellouli, mais c'est des mots, ça, aujourd'hui.
C'est pas des mots, c'est des réalités, Adil.
Franchement, vous répondez pas à la question, mon cher Akhil Mellouli.
Moi, je parle avec les Français.
Où est passé le Parti Socialiste?
C'est ce que je suis en train de vous dire.
Au point où il provoque dans les sondages, Adil, 3%.
Je finis, c'est ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, on a un problème d'incarnation. On confond les valeurs socialistes et le parti. L'appareil, aujourd'hui, n'est pas, Adil, je finis, je le dis, n'est pas à la hauteur. Nous n'avons pas, quand on était là...
À qui la faute?
À qui la faute ? À ceux qui ont choisi les petits arrangements entre amis pour garder le pouvoir plutôt qu'un vrai débat et une vraie impulsion pour sortir.
Où sont passées toutes ces figures du Parti Socialiste ?
Eh ben, elles se sont détachées. Il y en a qui sont partis chez Macron. Il y a eu une fuite en avant parce qu'effectivement, les gens ne se reconnaissaient de ça pareil quand on est dans des petits arrangements. On l'a vu ce congrès. Comment on a changé les règles du Parti Socialiste pour éviter la primaire. Si les socialistes ont peur de débattre, ils ne sont plus des socialistes. Donc, on le voit bien qu'il y a eu des petits arrangements avec des espèces de personnes qui se pensent porteurs de quelque chose, mais qui n'ont même pas, que c'est des VRP, ils n'ont même pas un échantillon sur eux. Ça, c'est notre réalité.
Ah, vous lâchez des choses là.
Oui, mais je le dis, moi j'assume ce que je dis, et je suis socialiste et je le resterai, mais ces gens-là, s'ils ne le sont pas, qui s'en aillent, qui laissent à d'autres porter les choses. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on a eu un problème de saut générationnel, on a eu un problème de renouveau militant.
Preuve, regardez,
et voilà.
Les plus jeunes, d'ailleurs, ouais, ça leur parle
moi,
plus.
Je ne suis pas là pour faire un truc. Mais attention, que aujourd'hui les difficultés de la gauche ne masquent pas des difficultés plus fortes de la société française. Quand on voit ce qui se passe chez les Républicains, avec quand même une dérive à l'extrême droite de certains propos, des gens qui sont potentiellement alliés avec Zemmour, ce qu'aurait refusé Chirac, parce que les gaullistes en leur temps, ceux qui sont issus effectivement de la résistance. Le Conseil de la Résistance est loin derrière nous. Donc attention, je quand même mets en garde les gens, attention aux dérives qui risqueraient d'entraîner dans le chaos. Et ne masquons pas les réalités de la société française avec les difficultés du Parti Socialiste uniquement.
Et je voudrais entendre aussi également Mehdi Jaziri, mais également aussi Jean-Claude Fissi-Kaya concernant est-ce que le PS, le Parti Socialiste, existe encore dans le paysage politique aujourd'hui ? Est-ce qu'il représente ? Est-ce qu'il a du poids ? 19h32, le Quoi de Neuf ?
Les informés, le Quoi de Neuf.
Avec tous les vendredis à 19h30, c'est avec Michel Taube, le patron d'Opinion Internationale, mais également éditorialiste. Bonjour mon cher Michel.
Bonjour, bonsoir Adil.
Comment ça va ?
Auditeur de Beurre FM.
Tout va bien pour vous ?
Très bien, ça va et vous ?
Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment mon cher Michel Taube. Vous avez décidé de parler de la concurrence mémorielle avec l'Algérie, si j'ai bien compris.
Alors oui, parce que, on nous reparle et je pense que ça va être beaucoup le cas dans les semaines et les mois qui viennent. Je vous en parlerai tout à l'heure. Roselyne Bachelot, ce matin sur Beurre FM, en tant que ministre de la Culture et ministre des Archives, comme elle l'a dit, a annoncé que les archives
sur
de la guerre d'Algérie seraient rouvertes avec 15 ans d'avance.
Ouais, sur BFM TV.
Alors pas n'importe quelles archives, les archives relatives aux enquêtes judiciaires de gendarmerie, de police en rapport avec la guerre d'Algérie. Donc ça fait des mois, suite notamment au rapport de l'historien Benjamin Stora, qu'Emmanuel Macron lâche par petites bribes des éléments effectivement d'ouverture de la mémoire sur les crimes qui ont pu être commis pendant la guerre d'Algérie. Il a redit aujourd'hui lors d'une conférence de presse avec le nouveau chancelier allemand que les différentes composantes mémorielles de la France doivent être reconnues. Tout cela, je suis d'accord, mais ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est un peu le coup de gueule que je veux
allez-y, on connaît vos coups de gueule.
Bah oui, c'est qu'en fait, pourquoi l'Algérie ne fait pas la même chose de son côté ? Bien entendu que l'indépendance était inscrite dans le sens de l'histoire, bien entendu qu'il y a des crimes commis, mais il y en a eu des deux côtés, et je pense que on a l'impression qu'Emmanuel Macron cède à une sorte de chantage mémoriel des autorités algériennes. C'était déjà le cas sur Bouteflika, c'est le cas avec l'actuel chef de l'État algérien. Et franchement, c'est une logique sans fin qui, à mon avis, ne va amener à rien.
Je sens, mon cher Michel Taube, que vous allez susciter des réactions de nos auditeurs. Je vous le dis clairement.
Certain, mais attention.
Je vous le dis clairement. Je les vois arriver.
Adil, vous me connaissez.
Oui, très bien.
Un homme de paix et de dialogue. Il y a eu des crimes commis, bien entendu. Il faut le reconnaître. Mais entre États, dans des sujets aussi sensibles, ça ne peut pas se faire n'importe comment. D'ailleurs, Emmanuel Macron a déjà fait des dérapages ces derniers mois en marge d'une conférence de presse où il a descendu littéralement la position des autorités.
En tout cas, l'ouverture des archives, elle est attendue, hein. Je vous le dis.
Oui, les relations sont très tendues, mais franchement, on ne peut pas le faire n'importe comment. Ok pour mettre les choses sur la table, oui à la transparence, oui à la vérité historique, mais dans ce cas-là, à toute la vérité. Et encore une fois, c'est parce que ni le peuple algérien, ni les Algériens, les Français d'origine algérienne n'attendent en priorité de la part du président de la République. Je vais vous dire.
Mais les débatteurs, ils sont en train de nous dire si.
Pardon ?
Les débatteurs qui sont sur le plateau, Jean-Claude Fissi-Kaya et Akli Meloudi, répondent si.
Et quelles sont vos sources ?
Quelles sources ?
Attends, laissez-le finir d'avoir son billet. Il est pas là pour faire l'interview. Je vous le dis. Michel, allez-y, Michel.
Ce que je voulais dire, c'est que le 19 mars prochain, on va commémorer sur deux dates, ça va durer un mois, les 60 ans des accords d'Évian. D'accord ? On sera à trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Donc on marche sur des œufs, on est sur des sujets extrêmement sensibles. Je suis, comme je le dis, comme l'a dit Benjamin Stora dans son rapport, oui, pour dire la vérité, pour rétablir les choses de l'histoire, mais dans ce cas-là, il faut le faire de façon, j'ai envie de dire, transparente des deux côtés, avec les peuples plus qu'avec les États, surtout quand on sait qu'il y a l'État qui est en face. Relativement, je veux le dire, et je pense que Roselyne Bachelot, c'est trop hâté de faire cette annonce, et je pense qu'à mon avis, c'est pas une bonne chose. Voilà.
Eh bien, écoutez, cela, je le sais, clairement, que ça va susciter évidemment beaucoup de réactions, et tant mieux, mon cher Michel Taube, le principe, c'est d'installer le débat, et d'installer évidemment l'échange avec nos auditeurs. Merci, mon cher Michel Taube, je vous souhaite un excellent week-end.
Merci, et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, sans faute, et prenez soin de vous. Opinion internationale, vous en êtes le patron, mais également aussi éditorialiste, qu'on retrouve sur les plateaux de télé. Merci, mon cher Michel.
Bonne soirée.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Et 19h40, si vous venez de nous retrouver, Les Informés, c'est avec Akli Melouli, maire adjoint sur la ville de Bonneuil-sur-Marne. C'est avec également Jean-Claude Félix-Chikaya, qui est chercheur au sein de l'Ellipse et un jeune journaliste avec nous, Mehdi Jaziri. Donc messieurs, à qui je devais redistribuer la parole, c'est à Mehdi. Mehdi, on vous écoute.
Et ben moi je vais vous dire, pour
avant de passer au sujet suivant, effectivement, parce que je veux qu'on parle de la laïcité.
Il faut qu'on en parle.
Alors, moi, très important, les amis.
Moi je vais vous dire, j'ai l'impression qu'on essaie de faire passer les gens du Parti Socialiste comme des pauvres idiots qui ne savent rien faire. Vraiment, sincèrement, j'ai l'impression qu'on les fait passer pour des vieux.
On en a un peu, je te rassure.
Oui, non, mais bien sûr, mais on les fait passer globalement pour s'en leur mettre cette étiquette-là. Moi, je trouve ça totalement ridicule. Moi, je trouve que le Parti Socialiste est plutôt victime, justement, comme vous le dites, de certaines personnes, de DSK, du quinquennat d'Hollande, on peut le dire, sincèrement. Il a été victime du quinquennat d'Hollande. Peut-être que maintenant Hollande fait un bon retour, mais il a été victime de ce quinquennat-là. Il a été victime d'Emmanuel Macron aussi. Donc en fait, il y a eu énormément de coups durs du Parti Socialiste. Et puis, autre chose aussi, quand on parle, par exemple, tout à l'heure, j'étais avec des jeunes du parti de Jean Lassalle. J'ai discuté avec eux.
Jean Lassalle, le député ?
Oui. Et quand on parlait du Parti Socialiste, il disait oui, c'est un parti à l'ancienne, quoi.
Ah, vieux parti. Les vieux !
Non, mais sincèrement,
le dinosaure.
Je pense que c'est ce qui fait le plus
mal. Parce que Jean Lassalle, c'est un jeune, c'est pour ça.
Les jeunes disaient ça.
Je parle des jeunes, bien sûr, mais en fait, sincèrement, je vais vous dire.
Vous avez loupé le coche, hein, les amis. Hein.
Moi, je vais vous dire, je pense que si le Parti Socialiste n'est pas mort, il doit renaître. Sincèrement, je pense qu'il doit renaître.
Eh ben, il doit renaître avec la nouvelle génération.
Avec la nouvelle génération, mais toujours en concordance avec les idées comme les idées de Jaurès. Il faut remettre en avant les idées de Jaurès. Éric Zemmour, de son côté, veut remettre les idées entre guillemets, bien sûr, de Gaulle. Voilà, ces idées-là, il veut porter le flambeau. Il a fait sa vidéo de campagne en se positionnant comme Charles de Gaulle, justement, l'appel du 18 juin. Et je pense qu'il faut que aussi le Parti Socialiste reprenne son histoire, reprenne les idées de Jaurès avec les jeunes cette fois-ci, montrer que le Parti Socialiste n'est pas un parti de vieux. Voilà, ce n'est pas une bande de vieux schnocks qui parlent d'idées socialistes. Non, c'est pas ça. Il faut.
Qu'en pensez-vous, Jean-Claude Félix-Chikaya, avant de passer au second sujet, au troisième sujet?
Mais Jaurès a repris quelques idées d'avant lui, mais il a réifié les idées. Mmh. Et là, il y a des hommes et des femmes de ce temps, quel que soit leur âge, qui peuvent remonter. Et puis, moi, je ne sais pas pourquoi les partis politiques ont peur de mourir. Tu peux mourir et renaître.
Bien sûr.
Et pas faire ce que veut nous jouer de manière théâtrale et réac et populiste Zemmour.
Moi, j'avais envie de dire que tu peux parler. Mourir et renaître différemment.
Oui,
créer une nouvelle histoire.
Parce que c'était bien expliqué. Au PS, il y a des gens remarquables, comme au PC d'ailleurs, Roussel est pas mal. Et je pense qu'il y a une complémentarité à trouver au lieu de chercher. Ils sont obligés de manière arithmétique. Déjà, il faut être pragmatique aussi en politique. Et en face, à droite, on a quand même Zemmour qui joue à la réification, à l'exhumation du gaullisme. Mais le gaullisme, c'est pas ça. Non. C'est pas sûr que si De Gaulle était vivant, c'est pas sûr qu'il était d'accord avec Zemmour. Il faut se rappeler quand même qu'en 69, la majorité de la France lui a dit non à De Gaulle. Mmh. Donc aujourd'hui, tous ceux qui lui ont dit non, ils sont tous gaullistes.
Donc il y a cette contradiction, hein, de gauche à droite, ils ont dit tous non à De Gaulle. D'ailleurs, il a démissionné pour d'ailleurs tout de suite après voter pour son chef de cabinet, Pompidou. Donc la France est restée à droite. Donc il faut aussi connaître l'histoire pour savoir que là on réinvite au XXIe siècle des idées qui bien sûr ne feront pas l'affaire parce que on a changé de temps.
On a changé de temps, effectivement. Il faut entendre l'oreille, et j'espère que le Parti Socialiste, évidemment... renaîtra, c'est pas mon problème. Enfin, moi, je n'appartiens pas, si vous voulez, c'est pas mon rôle de dire qu'il doit renaître ou pas.
C'est
mais
pour la beauté du paysage politique.
En tous les cas, il doit, je pense, se remettre en question et puis écarter les histoires d'égo.
Adil, de toute façon, le socialisme va vivre quelle que soit la forme qu'il prendra.
Aujourd'hui, il reviendra pas au pouvoir, il n'est pas prêt. Hein.
C'est vraiment un problème presque sociologique et politique. Oui, je vais jamais changer, mais si tu changes pas...
Non mais Jean-Claude, là où j'ai raison,
je pense qu'on doit
aller à la fin d'un cycle. Et je pense que cette présidentielle sera à la fin d'un cycle et qu'il faut maintenant passer à l'autre. Et il a raison, il va falloir que la gauche se repose les questions, mais globalement, il va falloir que... C'est pas grave d'évoluer, c'est pas de changer, c'est d'adapter au 20e siècle. Voilà, mais on y va.
19h45, s'il vous plaît, je voudrais qu'on parle de la laïcité, dernier sujet, important absolument avec les Mélolis. 40% pour 40% des lycéens, les règles de leur religion sont supérieures aux lois de la République. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut absolument qu'on parle. Ça, c'est les informés. C'est les informés parce que, paraît-il, quand on voit tout ça, eh bien, j'ai un peu lu, j'ai un peu gratté, j'ai un peu déniché certaines choses. Ils disent qu'il y a un vrai problème. Les lycéens, eh bien, pensent que les normes édictées par leur foi sont plus importantes que les lois de la République. Ils disent aujourd'hui, l'éducation nationale rapporte, vous rendez compte, écoutez bien, une légère rose des atteintes à la laïcité depuis la rentrée dernière. Alors, j'aimerais commencer par justement, je sais, vous n'êtes pas lycéen, pardonnez-moi, mais...
J'étais il n'y a pas longtemps lycéen. Hein,
c'est un jeune.
Alors,
moi, je vais vous dire que...
Alors,
déjà,
je voudrais vous entendre.
Faudrait dire déjà que beaucoup de jeunes ne savent pas ce que c'est que la laïcité. Mmh. On a des cours grotesques qui nous expliquent ce que c'est, mais finalement, personne ne sait ce que c'est. Premièrement, déjà, la laïcité aussi, c'est une valeur qu'il faut... faut rassembler les gens autour de ces valeurs. Et cette valeur, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la France. Et excusez-moi, mais on n'attache même pas les jeunes à la France, tout court. Trouvez-moi un seul professeur qui apprend la Marseillaise à ses enfants. Mmh. Trouvez-moi, sincèrement. C'est un problème qui découle de plein d'autres problèmes. Et puis la laïcité, quand on entend sur les plateaux de télé... dire tout et n'importe quoi, enfin un coup la laïcité c'est pas mettre de voile, l'autre il va dire voilà, non, mais sincèrement, enfin on entend de tout.
Non mais vous avez dit un truc important, mais les gens sont perdus. La laïcité, les lycéens ne savent même pas ce que c'est.
Ils savent même pas ce que c'est. Qu'est-ce qui
Alors faisons un tour de table. Aklim Mélouli, oui. Allez-y, Jean-Claude Fichikaya.
Parce que je donnais encore des cours il y a pas très longtemps et notamment sur la laïcité. Ce que je dis aux élèves, l'école c'est pas le menu du resto. Il y a des cours que vous n'allez pas avoir envie d'entendre, les mathématiques ou autres, mais il y a des obligations. Et la laïcité, c'est une obligation, et justement de connaître l'histoire et pourquoi elle y est intervenue. Elle n'est pas la laïcité présentée parfois par certains politiques comme outil et instrument pour fustiger et stigmatiser les musulmans. Au contraire, la laïcité, dans le texte et dans sa réalisation, elle permet de croire ou de ne pas croire. Donc, il ne faut pas confondre la démagogie et le mensonge de certains politiques et la réalité de la laïcité et de son histoire. Parce qu'elle permet... Il faut savoir que pendant la colonisation...
Alors pourquoi on en fait débat?
Pendant la colonisation... Non mais parce que moi j'en parle aussi aux élèves. On appelait... Et pendant la guerre 39-40, on avait sur leur carte d'identité pour ceux qui étaient juifs, juifs et français, français et musulmans,
oui,
et ceux qui étaient noirs en Afrique, français et indigènes. Ouais. Et c'est aussi au nom des députés colonisés qui ont travaillé pour mettre cette règle qui était dans la République. Non, la 1905. République, elle est pour tout le monde. Donc ça a été une bataille, parfois même la guerre, pour que... Soit on est français, soit on ne l'est pas. Alors, mais on ne peut pas être sur notre carte d'identité, français juif, français musulman, français noir. Il faut se rappeler quand même que quand la République ne respectait pas la laïcité, il y avait des brigades contre les musulmans, des brigades contre les noirs et des brigades contre les juifs. Et c'est grâce à cette loi qui a été votée en 1905 pour régler les choses, parce que l'école était donnée aussi par les cathos, la justice par les cathos, donc bien sûr, ça orientait la vision de l'enseignement et de la justice. Alors, et c'est la séparation de l'Église et de l'État qui a réifié la République. Et d'ailleurs, liberté, égalité.
On va en parler.
Franchement, je vais vous dire, qu'on demande à des gens qui sont croyants. Que déjà qu'un croyant vous dise que la foi et la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République, c'est logique. Il est croyant, donc il y croit. Maintenant, qu'il a, il n'a pas le droit de l'appliquer. Le problème, c'est qu'il a le droit de le croire. Par contre, il est obligé de respecter la République.
D'y soumettre.
C'est ça la laïcité. La laïcité ne l'empêche pas de croire ce qu'il veut. Il a le droit de croire que ce soit supérieur. Il a le même droit. Non, mais je parlais de croire que sa religion est supérieure et tout ça. Par contre, il n'a pas le droit de ne pas respecter la règle. Et là, je vais vous dire, moi, le problème. C'est qu'en fait, ces gamins, ils vivent dans la laïcité tous les jours. Parce que la laïcité, quand vous entendez sur des plateaux des gens qui vous disent, moi, je suis laïque au nom de la laïcité, mais la laïcité, c'est le cadre. C'est le cadre de la République. Si quelqu'un commet un délit, non, mais il doit être poursuivi parce que on raconte des conneries et à longueur de journée, comment voulez-vous que les jeunes s'y retrouvent? Et donc, si quelqu'un commet un délit, il doit être poursuivi s'il ne le respecte pas. Mais pour le délit, pas pour un délit supposé, parce qu'aujourd'hui, on présuppose que certains jeunes ne seraient pas laïcs. Qui a le droit de dire ça? Et alors, c'est là toute la vie. Attends, je finis. Et donc, il y a des gens qui commencent sur le délit. Ils confondent délit et délire.
Attention, cette confusion ne doit pas obérer le fait qu'il y a de véritables problèmes sur cette question. Il y a des jeunes qui savent très bien, mais qui vont provoquer. Mais l'école, c'est l'endroit dédié pour en parler.
Ce qui est interdit dans la laïcité, c'est le prosélytisme religieux, y compris dans l'espace public, même si les églises sont l'espace public. Par contre, effectivement, comme l'a dit Bédier, là je rejoins, quand vous avez des gens qui viennent parler de l'habillement, parce que en 1905, quand il y a eu le débat sur la loi, ça a été tranché, puisqu'on voulait même interdire les curés en soutane dans l'espace public. Et Briand et Jaurès ont dit, bon allez, il faut arrêter maintenant, la laïcité ne s'occupe pas du vestimentaire. Et donc aujourd'hui, la laïcité s'occupe même de la viande dans les cantines, la laïcité s'occupe de trucs, donc à un moment donné, les jeunes ne s'y retrouvent pas. Moi, je vous dis, je ne sais pas ce qu'ils fument, je ne sais pas ce qu'ils boivent, mais il faudrait qu'ils arrêtent de parler de laïcité après 3 grammes dans chaque bras.
Ça va loin. Votre coup de gueule, on l'aura compris aujourd'hui, le coup de gueule d'Hakim Elouli.
Il y en a qui confondent délit et délire, parce que là, on est dans le délire complet.
Alors, faisons.
Et je finis, les gens ont le droit. La laïcité, c'est quoi? C'est la loi protège la foi,
s'il vous plaît.
Tant que la foi ne fait pas la loi. C'est tout.
S'il vous plaît, Mehdi Jaziri.
Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit...
S'il vous plaît.
Jean-Claude, excusez-moi. Concernant l'école, moi, je trouve que, justement, on a un vrai problème d'identité française tout court. C'est-à-dire qu'on ne sait pas.
Il y a des inquiétudes.
Oui, on ne sait pas ce qu'être français finalement.
Mais c'est parce qu'on est en train de dire.
Laissez-le finir, s'il vous plaît.
C'est un problème de fond.
Au-delà de.
Bien sûr, c'est un problème de fond parce qu'en fait, généralement, en fait, ce qui m'énerve, même avec les politiciens, c'est que quand il y a un problème, on trouve un fautif, un seul fautif, un bouc émissaire. C'est pas le cas. Le vrai problème, en général, c'est justement le manque d'identité nationale. On ne sait pas ce qu'est la France. La France, en réalité, c'est le pays de la tolérance, c'est le pays du vivre ensemble. Tout simplement. Exact. Et en fait, ça, je trouve, excusez-moi, je sais que vous
avez été enseignant,
mais je trouve que les enseignants ne sont pas tellement dessus, finalement. Je trouve que l'école, justement, le côté scolaire est devenu presque ennuyeux. Ça ne pousse pas les jeunes à s'intéresser justement à ces valeurs, parce que ces valeurs sont belles, c'est les valeurs d'un beau pays. Mais on voit ce pays maintenant aujourd'hui, malheureusement, comme pendant les débats politiques par exemple, comme un pays de fachos, parce que c'est les gens qui sont plus mis en avant aujourd'hui. On voit ce pays comme un pays qui contre la tolérance, justement contre le vivre ensemble, alors qu'en réalité, moi je vais vous dire, dans les quartiers par exemple, il y a un vrai vivre ensemble. Voilà, il faut arrêter de croire, par exemple, que dans les quartiers, tout le monde se trimballe en djellaba, que toutes les femmes sont voilées, qu'on oblige les femmes à se voiler. Mais c'est totalement ridicule. J'habite dans un quartier et je le vois de mes propres yeux. Les gens se comportent comme les gens qui voient la télévision. Et qu'est-ce qu'on voit à la télévision? Principalement, les gens dans les séries américaines.
Alors, Jean-Claude,
voilà, c'est ce que je dis, par exemple.
Jean-Claude, donc, arrêter, parce qu'on arrive, ça y est, on arrive à la fin de cette émission. Jean-Claude,
ce que je voulais dire, je confirme et je persiste et signe que les espaces où il y a la socialisation première, c'est la famille et après c'est l'école. Mmh. C'est vraiment là où il peut se passer beaucoup de choses après, bien sûr.
Et les amis.
Il y a les amis, les réseaux sociaux et autres. Mais la loi, elle est au-dessus. Tout le monde, elle doit transcender. Sauf que quand vous avez des personnes réactes, populistes, même extrémistes et racistes, qui emploient comme instrument et outil ce mot de laïcité qui dit dans la loi le contraire de ce qu'ils disent politiquement, il est normal que certains jeunes en pleine évolution ou d'autres se disent, mais ce mot, on s'en sert trop pour nous diviser plutôt que pour réunir. Donc ils sont en train de dévoyer un terme et lui donner une autre coloration. Donc un élève, quand il entend, ce mot-là, je l'ai déjà entendu. Donc, ils sont un peu défiants.
Parce que les cités, c'est fait pour le vivre ensemble à la base. C'est pas fait pour diviser les gens, c'est ça. On se sert de tout pour diviser.
Allez, regardez, on arrive au terme de cette émission. Allez, vraiment, c'est la fin.
Alors, il a raison. La laïcité, c'est le ciment du vivre ensemble. Ça peut pas être un élément diviseur. Et là où je rejoins Jean-Claude, c'est vrai que la laïcité, en fait, aujourd'hui, les gens veulent l'utiliser. Quand il y a des gens sur des plateaux télé qui disent, moi, en tant que laïque, lui, il est pas laïque. C'est l'espace qui est laïque. Lui, il est croyant, non croyant, agnostique, il est ce qu'il veut. Mais la laïcité n'est pas une religion. Donc, il faut arrêter de l'ériger en religion pour opposer les gens.
Merci à
Il y a une haine de la religion.
Non, mais on pourra en parler pendant. Merci, messieurs. Merci à Jean-Claude Fichikaya, chercheur au sein de l'IPSE, pardon. Merci à. Au coup de gueule d'Akli Meloli, maire adjoint sur Bonneuil-sur-Marne.
Comment le résumer?
Non, mais écoute, voilà, il avait envie, effectivement, d'exprimer ce qu'il animait.
C'est
voilà,
une bonne thérapie.
Son exaspération. En fait. Merci à Mehdi Jazeri, jeune journaliste. À bientôt.
C'est merci.
À la réalisation, c'était Yanis. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci dans une poignée de minutes, c'est Bilal Lenman et le Time Sport. 20h-21h à lundi, avec autant de plaisir.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.